Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Éric.
Renaud, question traditionnelle, comment vas-tu aujourd'hui ?
Eh bien écoute, en ce jour où nous enregistrons, il fait très beau, j'ai fait un footing assez long ce matin, donc j'avoue que je commence à me plaire dans ce déconfinement dans lequel malgré tout je tente au maximum de respecter les règles de distanciation sociale et le respect des règles sanitaires pour éviter le retour de la pandémie.
Eh bien écoute, dans le même esprit que toi, moi j'ai prévu aujourd'hui un petit pique-nique. Alors Renaud, on est sur une série d'émissions consacrées à la dette de l'État français, en particulier suite aux mesures d'aide fournies par le gouvernement à l'occasion de la crise du coronavirus. On a vu déjà un certain nombre de détails qui concernent le montant de cette dette. On a vu qu'elle s'élevait à 115% du produit intérieur brut. D'après les analystes, il se pourrait que le montant de cette dette dépasse largement les 115% du PIB lorsqu'on fera le solde de tout compte. C'est-à-dire que ce matin dans le journal, par exemple, je lisais que ça pouvait facilement atteindre 30 points de plus.
C'est possible, tout dépend de la reprise de la consommation ou non, de la poursuite des mesures de chômage partiel ou non, d'un nouveau confinement ou non. Donc cela reste possible.
Bon, écoute, donc ça, c'est de l'ordre de l'hypothétique. Cette question de la dette, on s'en interroge en France et certainement dans d'autres pays dans le monde depuis bien longtemps. La France est endettée depuis 1975 et déjà à l'occasion des dernières élections présidentielles, elle suscitait une certaine polémique, cette dette. Est-ce que tu veux que je te fasse écouter un extrait d'émission, c'est-à-dire c'est le journal d'Europe 1 en 2017? Et c'est Jacques Cheminal qui s'exprime sur cette dette.
Tout à fait.
Europe 1, 6h56, Thomas Soto.
C'est l'heure de retrouver Géraldine Vosner pour le vrai faux de l'info de la matinale. Bonjour Géraldine.
Bonjour Thomas.
Ce matin, l'affolement de Jacques Cheminade quand il regarde la dette.
Le candidat de Solidarité et Progrès dénonce l'occupation de la France par la grande finance, responsable pour lui de la majeure partie de la dette de la France.
Notre dette publique, 239 milliards en 1979, 2170 milliards aujourd'hui. Et dans ce temps-là, on a payé pour environ 1400 milliards d'intérêts. Donc c'est ça une occupation financière.
On a payé 1400 milliards d'intérêts sur la dette depuis 1979, affirme Jacques Cheminade. C'est vrai ou c'est faux ?
C'est vrai, Thomas. Exactement 1350 milliards d'intérêts versés depuis 1979, selon les comptes de l'INSEE. La dette elle-même atteignait 2147 milliards au début de l'année. Et ce montant abyssal est dû en partie au poids des intérêts. Car chaque année, depuis que l'État est en déficit, depuis 1975, il emprunte pour payer ses dépenses. Ces emprunts génèrent des intérêts qui s'empilent depuis 20 ans. Leur remboursement avale plus de 40 milliards d'euros par an pour les payer. Ben, qu'est-ce qu'on fait ?
On emprunte.
On emprunte. La dette produit de la dette. C'est une spirale sans fin. Mais ce qui est fou, c'est qu'on ne le réalise pas vraiment car les taux sont très bas. On ne paye pas plus cher qu'il y a 20 ans quand notre dette était 4 fois moindre. Ça n'incite pas à faire des économies. Mais si les taux remontaient, ne serait-ce que d'un point, l'agence France Trésor l'a calculé, ce serait catastrophique. 2 milliards de plus la première année, puis 16 milliards dans 10 ans. Comme cette dette est détenue à 60% par des étrangers, Jacques Cheminade parle d'occupation, ses prêteurs évidemment ne prêtent pas gratuitement.
Et oui, on ne prête pas gratuitement. C'est ce que disait cette chroniqueuse à la fin du son qu'on vient d'entendre. Est-ce que tout ce qu'on vient d'entendre est vrai d'ailleurs, Renaud ?
Ah, oui, c'est objectivement vrai, c'est factuel. Alors après, il faut remettre ça dans le contexte des décisions économiques et politiques qui ont été prises. Donc pour le faire très très rapidement, à l'origine, lorsqu'un État était en déficit, c'est-à-dire lorsqu'il dépensait plus qu'il ne recevait de recettes principalement sous forme d'impôts, eh bien, il pouvait emprunter directement auprès de sa banque centrale, donc la Banque de France concernant la France, et cela donnait naissance à une création monétaire, ce qui faisait qu'on considérait à l'époque que l'endettement était quasiment indolore, puisque déjà cela se faisait à des taux le plus souvent nuls, puisque la banque centrale était possédée par l'État était propriété de l'État. Donc l'objectif de l'État n'était pas non plus de s'ajouter des frais supplémentaires. Et puis comme on créait de la monnaie, finalement on avait une sorte de robinet ouvert qui permettait de se refinancer sans difficulté. La contrepartie, ça on en reparlera en fin d'émission si on a le temps, c'était l'inflation, parce que quand on crée de la monnaie, on crée aussi de l'inflation. Et pour aller à l'essentiel, dans les années 70, au moment où les États ont commencé à avoir des déficits récurrents, puisque comme c'est très bien dit dans l'émission, depuis 1975, en fait, l'État français est en déficit non-stop, c'est-à-dire cela fait plus de 45 ans que chaque année, à la fin de l'année, l'État présente un déficit public. Eh bien, il a été décidé progressivement sous l'influence d'un renouveau des idées libérales et des idées plutôt hostiles à l'intervention de l'État dans l'économie, d'essayer justement de rendre ce refinancement plus coûteux, plus douloureux pour l'État, dans l'optique de pousser l'État justement à être plus vertueux. Parce que quand vous pouvez vous refinancer sans problème, eh bien la tentation est grande de laisser vos dépenses et vos déficits un peu se dérouler.
Oui, alors ça, ce que tu dis, Renaud, c'est dans le cadre de l'harmonisation européenne. Hein, c'est-à-dire que ce sont des règles qui ont été déterminées depuis que la France adhère à l'Europe et qu'il y a les accords de Schengen notamment, non ?
Oui et non. Alors, les accords européens remontent à avant, puisque le premier traité européen que nous avons signé, c'est au début des années 50, la CECA, Communauté Européenne du Charbon, de l'Acier et du Charbon.
De l'acier et du charbon, excuse-moi.
Et on aurait pu très bien imaginer avoir une construction européenne qui ne se fasse pas sur ces bases-là. C'est pas la construction européenne qui, en tant que telle, engendre cela.
Ce sont les règles récemment apportées par l'institution européenne, et en particulier depuis la dernière crise, qui impose aux États cette vertu dont tu parles.
Exactement. Alors, c'était pas propre à l'Europe. Hein. Les États-Unis ont aussi suivi le même chemin dans les années 70. Disons qu'à un moment donné, il y a eu une conjonction à la suite du choc pétrolier de 73 et de la crise économique qui en a suivi, même si le choc pétrolier n'était pas structurellement la cause fondamentale de cette crise. Mais là, on partirait trop loin. Mais toujours est-il que, comme dans les années 70, les solutions dites keynésiennes que l'on mettait en place avant ne fonctionnaient plus, eh bien, il y a en quelque sorte un renouveau paradigmatique, un renouveau idéologique, et ce renouveau idéologique, entre autres, va se cristalliser au sein de l'Union européenne par des décisions qui sont effectivement celles-ci et qui vont donner naissance en 1992 avec le traité de Maastricht à l'idée que les banques centrales doivent être indépendantes des pouvoirs politiques et qu'elles ne peuvent plus financer les déficits des États. Et donc, en la contrepartie, c'est que les États vont devoir trouver des financements non plus auprès de la banque centrale, mais auprès des marchés financiers en émettant des obligations. Et évidemment, sur les marchés financiers, nous n'avons pas des philanthropes. Nous avons des agents économiques qui cherchent simplement à rentabiliser leurs placements et qui, effectivement, vont demander une rémunération en échange du prêt.
Alors, effectivement, il y a tout un marché de la dette, hein, c'est-à-dire que la dette de l'État français se revend, peut faire l'objet de spéculations, etc.
Exactement. Donc, en fait, ce qu'il se passe, c'est que prenons cette année, le déficit prévu pour cette année sera de 185 milliards d'euros. Ça signifie qu'en fin d'année, l'État aura un manque dans ses caisses de 185 milliards. Il va donc falloir les trouver, ces 185 milliards. L'État va donc émettre des obligations qui sont des reconnaissances de dette, hein, sur des titres de créance sur les marchés financiers. Toi, Eric, nos auditeurs, des grandes entreprises, des multinationales, des fonds de gestion des retraites de retraités américains peuvent très bien acheter ces obligations. Et quand vous achetez une obligation, en fait, vous prêtez à l'État. Et sur l'obligation est indiquée la date de remboursement et le taux d'intérêt associé.
Mais oui. Bien, donc, on parlait de la Banque Centrale Européenne. Il est question récemment que la Banque Centrale Européenne, finalement, rachète la dette des États. C'est possible, oui. Ça ?
Alors, si on s'intéresse à la France, dans le cadre de l'Union européenne et plus particulièrement de la zone euro au sein de l'Union européenne, ce n'est pas techniquement possible, puisque dans le traité de Maastricht, il est écrit noir sur blanc que les banques centrales donc sont indépendantes des États et ne peuvent plus financer les déficits des États. Justement, l'idée de cette décision, c'était de mettre en quelque sorte un frein au déficit récurrent des États. Bon, ça n'a pas trop marché, hein, puisque les déficits ont continué, en fait. Mais l'idée, c'était ça, c'était de dire, en évitant que les États puissent gratuitement, en quelque sorte, se refinancer, eh bien, on va mettre une pression forte pour mettre en place des politiques d'austérité qui vont mener à une disparition des déficits. Donc la Banque Centrale Européenne ne peut pas le faire, et c'est pour ça que l'État français émet des obligations qui sont ensuite vendues, puis ensuite revendues sur les marchés financiers, etc. Pour autant, en 2008, lorsqu'on a eu la crise financière, beaucoup d'États, dont la Grèce par exemple, ont eu des difficultés abyssales à se refinancer, entre autres parce que les agents économiques étant rationnels, prêtent à des agents économiques envers lesquels ils ont confiance, mais prêtent beaucoup moins facilement envers des agents économiques qui leur semblent trop risqués. La Grèce étant le meilleur exemple au début des années 2010. Et par exemple, je vais te poser une question, et à mon avis, tu vas être loin de la vérité, tellement le chiffre est quand même assez
colossal.
À combien la Grèce, début 2012, empruntait-elle sur les marchés financiers? C'est-à-dire, quand la Grèce émettait des obligations, quel était le taux d'intérêt qu'elle proposait pour trouver des prêteurs? Taux d'intérêt annuel.
D'accord. Alors, je vais dire ce qui semble déjà tout à fait important, 25%.
Alors, c'est monté jusqu'à 36% de taux d'intérêt annuel. Voilà. Donc, pourquoi? Bah, tout simplement parce que personne ne voulait prêter à la Grèce. Toi-même, Eric, ou moi-même, si j'avais eu 100 euros à placer, je ne l'aurais pas placé dans la dette grecque parce que je me serais dit c'est trop risqué. Alors, par contre, si on me dit « Ok, c'est risqué, mais… » Imagine, si tu as un remboursement, c'est à 36%. En France, les taux sont à 1% si tu prêtes à l'État français. Donc effectivement, c'était un moyen. Donc le taux d'intérêt est une sorte de prime de risque. Mmh. Alors, pourquoi disais-je cela? Parce que je pars, et puis parfois je perds
le fil. Parce que tu voulais rappeler le rôle de la Banque Centrale Européenne dans le refinancement des États.
Oui, voilà. Et donc, pour éviter que des États comme la Grèce fassent faillite. Parce que c'est possible. Il est possible qu'un État décide de ne pas rembourser sa dette. Un État, il est souverain. Du jour au lendemain, il peut dire, écoutez, je m'en lave les mains, je n'ai pas les moyens de refinancer. Tout comme une entreprise peut ne pas rembourser sa dette. Elle fait faillite. Donc elle fait faillite, elle passe devant le tribunal de commerce, il y a liquidation d'entreprise, l'entreprise peut éventuellement être prise par un repreneur, et on repart à zéro. Les dettes sont annulées. Pour un État, c'est possible aussi. Le seul problème, c'est que c'est un one-shot. Si demain la France déclare qu'elle ne rembourse pas sa dette, c'est possible. Par contre, dès l'année suivante, faut pas être en déficit, hein, parce que vous n'aurez personne pour vous prêter, ou alors à des taux d'intérêt vraiment très très élevés. Donc, pour éviter que la Grèce ne fasse faillite et que par effet de domino, cela ait un impact sur tous les autres pays européens, dont la France, dont les taux d'intérêt auraient fortement augmenté, puisque forcément la confiance envers tous les pays de la zone euro aurait été fortement touchée, eh bien, pour éviter ça, la Banque Centrale a un petit peu louvoyé en disant « je n'ai pas le droit de directement financer les déficits des États, alors je vais essayer de mettre en place quelque chose qui est dans les clous tout en n'étant pas totalement dans les clous, c'est-à-dire que je vais dire aux banques de la zone euro qui se refinancent auprès de nous, la Banque Centrale Européenne, que si elles-mêmes, elles achètent des obligations d'État grec ou d'État français, eh bien on leur donnera, nous, des conditions de refinancement auprès de nous, la Banque Centrale Européenne, à des taux tellement faibles que finalement elles en sortiront très gagnantes, même si au final elles ne sont pas remboursées du remboursement de leurs obligations. Et donc indirectement, on n'achète pas les obligations d'État français ou grec, etc. Mais en poussant les banques à le faire, eh bien c'est comme si on le faisait indirectement.
Donc en fait, la Banque Centrale Européenne rembourserait la dette au travers de ces taux d'intérêt extrêmement bas qu'elle pratiquerait auprès des banques.
C'est ça. En fait, elle pousserait un intermédiaire, en l'occurrence les banques, à réaliser ce qu'elle devrait faire elle-même, et elle en payerait en quelque sorte les conséquences derrière elle-même.
Mais alors, la question qu'il y a derrière ça, c'est que finalement, cette dette, elle sera épongée par qui en réalité? Parce que la Banque Centrale Européenne, ça reste quand même les citoyens européens, non?
Alors, la Banque Centrale Européenne a un pouvoir très fort qui est le pouvoir de création monétaire. Donc, on peut très bien imaginer que cette dette soit... Alors, dans un premier temps, financé par création monétaire, c'est-à-dire que cette somme, en quelque sorte, n'est prise nulle part. Elle est simplement ajoutée à la quantité de monnaie qui circule dans l'économie, avec évidemment un risque.
Qui est l'inflation.
Alors actuellement, ce risque est quasiment nul. Hein. On a un taux d'inflation qui est quasiment nul en Europe depuis une dizaine d'années. Hein. Donc, donc pour l'instant, le spectre de l'inflation n'est pas du tout là. Hein. Pas du tout. Mais, en tout cas... c'est une conséquence possible. Donc c'est ça parfois qui fait freiner des cas de fer la Banque Centrale lorsqu'on l'incite à aller encore plus loin dans le financement des déficits. Et puis, surtout, Deuxième élément important, c'est que tant que ce sont des obligations, bah, il faudra quand même que ça soit remboursé à un moment. Donc même si on a créé la monnaie correspondante, si vous émettez une obligation à 10 ans, bah, dans 10 ans, ça veut dire qu'il faut quand même que sur le budget, et c'était bien expliqué dans l'émission dont tu nous as mis un extrait tout à l'heure, bah, dans le budget d'État, il va falloir qu'on prélève une partie des recettes fiscales. Et en disant, bon, on va pas les redistribuer aux fonctionnaires, on va pas les redistribuer aux infirmiers, on va pas les redistribuer aux enseignants, on va les distribuer aux détenteurs des obligations pour leur payer des intérêts. Mais comment imaginer les choses autrement? Personne ne va prêter gratuitement à l'État. Enfin, si toi tu as de l'épargne, Eric, tu vas pas aller le prêter gratuitement à n'importe qui. Ou alors tu fais un don à une association.
À toi, Renaud, je prêterai gratuitement. Mais c'est vrai qu'en dehors de quelques amis très proches, il n'y a pas grand monde à qui je le ferai.
Voilà. Donc en quelque sorte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut évidemment critiquer les spéculateurs qui se font de l'argent sur le dos de la dette, mais quelque part, s'il n'y avait pas ces taux d'intérêt dans ce cadre financier-là, hein, s'il n'y avait pas ces taux d'intérêt, bah, tout simplement, les déficits ne seraient pas financés. Et donc là, on serait vraiment, vraiment dans des difficultés plus qu'importantes. Alors justement, la question actuellement, c'est est-ce que la Banque centrale pourrait pas passer un cap et que carrément on change les traités européens et qu'on revienne à un financement direct des déficits publics par la Banque centrale. C'est-à-dire qu'on revienne à ce qui se faisait durant les 30 Glorieuses, avec le succès que l'on sait. Alors, évidemment, corrélation n'est pas forcément causalité. C'est pas parce que, à l'époque, la Banque centrale a financé les États que ça explique forcément qu'il y ait eu les 30 Glorieuses. Peut-être qu'en fait, les facteurs sont beaucoup plus complexes, multiformes, etc. Mais voilà, donc c'est une éventualité, c'est quelque chose qui est en discussion.
Mais ça repose sur l'acceptation de l'idée du retour de l'inflation aussi.
Alors, ça repose sur l'acceptation de l'idée d'un retour possible de l'inflation. Parce que pour l'instant, on n'y est pas du tout. Hein. Parce que depuis 2008, je peux t'assurer que les banques centrales, et la BCE en particulier, ont inondé les marchés financiers et les banques de liquidités. Ça ne s'est pas du tout retrouvé dans les chiffres de l'inflation. D'accord. Ça s'est retrouvé dans des bulles spéculatives sur les marchés financiers, mais ça ne s'est pas du tout retrouvé là. Alors, juste pour terminer, alors ça nous met peut-être un petit suspense pour l'émission qui vient, parce que je crois que je ne vais pas avoir le temps de développer là, c'est qu'il y a aussi une autre question qui se pose actuellement et qui est à la confluence du financement de la dette et de la relance économique pour sortir de la crise via la Banque centrale. C'est la mise en place pour la première fois dans l'histoire des banques centrales, de ce que l'on appelle la monnaie hélicoptère. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la monnaie hélicoptère, Eric.
Absolument jamais, Renaud.
C'est vrai? Bon, écoute, c'est vraiment... Alors là, c'est un cas d'école, parce que ça fait des décennies qu'on en parle. Ça n'a jamais été mis en place, parce qu'on considère que c'est trop risqué. Mais là, Christine Lagarde a dit que c'était en discussion. Voilà, c'était une possibilité ouverte. Et donc, je te propose, Eric, que dans notre prochaine émission, nous voyons ça ensemble.
Bah écoute, c'est un programme tout à fait alléchant et j'ai hâte de savoir de quoi il s'agit. Merci Renaud, et donc à la prochaine fois.
Merci Eric, au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Eric Carlier et Renaud Chartois.